affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie médiévale à travers les documents écrits qui nous en sont parvenus. Ils permettent de mieux comprendre la vie religieuse, administrative, marchande et quotidienne de ces siècles lointains. Nous sommes donc en compagnie de Jean-Pierre Mahé, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui nous a signalé les travaux de Pierre Gonod, professeur à la Sorbonne et directeur d'études à l'EPHE, qui travaille sur un grand projet d'édition autour notamment des chartes diplomatiques. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors Jean-Pierre Mahé, nous allons commencer avec vous. Ces travaux de publication s'inscrivent dans une œuvre de grande ampleur menée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui s'appelle « Les monuments », une œuvre éditoriale autour des écritures. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
Oui, c'est un projet de l'Union académique internationale qui est patronné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il a été fondé en 1995 par deux collègues malheureusement disparus, M. Hartmut Atzma, qui avait très largement acquis et organisé l'actuel institut historique allemand à Paris, et son collègue, notre collègue, Jean Vézin, qui était correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Tous deux étaient paléographes. Alors, ils étaient engagés dans la publication, une entreprise collective de publication des chartes latines antérieures à l'an 1000. Et ils sont soudain perçus quand même qu'à partir du 9e siècle, ça devenait très difficile étant donné le nombre des documents et en même temps répétitif, donc peu instructif. Et ils ont donc décidé d'arrêter leur série et de créer une série nouvelle qui s'appelle « Monuments paléographiques du Moyen-Âge ». En latin, enfin je passe sur le latin à ce sujet. Et ils ont conçu cela dans une perspective tout à fait différente, puisque les monuments ou les écrits à cette époque sont extrêmement nombreux et divers, eh bien, on ne peut plus être exhaustif. Il faut être sélectif, il faut choisir des cas intéressants. Mais en même temps qu'on restreint en étant sélectif, si vous voulez, en même temps, il faut élargir la perspective. C'est-à-dire que c'est une époque où l'écrit va se répandre dans toute l'Europe, sous des formes, avec des emplois, je veux dire, de plus en plus variés. C'est-à-dire, il y aura des livres religieux, comme il y en a toujours eu, mais des chartes politiques, comme il y en a eu, mais aussi des comptes privés, des documents, j'allais dire, des emplois très différents, et en même temps, des supports très différents. Enfin, classiquement, on écrit sur le parchemin et ensuite, quand il existe, sur le papier. Mais il y a aussi plein d'écrits sur d'autres supports qui sont gravés sur le métal, qui sont gravés sur du bois, qui sont brodés sur des étoffes. Et d'une certaine façon, on ne peut pas faire une véritable histoire de l'écriture sans considérer cette diversité de supports. Alors, je ne vais pas rentrer dans les questions d'évolution de l'écriture, mais c'est quelque chose de très important, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, il y a eu d'une part des techniques nouvelles, c'est-à-dire qu'autrefois, on étudiait les manuscrits avec une loupe, une gomme et un crayon. Hein. Et maintenant, évidemment, on les étudie sur des supports informatiques. On peut zoomer comme on veut. On peut faire varier la fréquence lumineuse pour voir des choses qui n'apparaîtraient pas autrement. C'est le cas, par exemple, dans les palimpsestes. Donc, on a d'une part des techniques d'examen des manuscrits qui sont entièrement différentes. Et puis surtout, il y a de nouveaux intérêts scientifiques.
C'est-à-dire, par exemple
Par exemple, le professeur Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, a fait des études qui sont maintenant très, très reconnues sur l'apprentissage de l'écriture et de la lecture et sur les mécanismes, si vous voulez, de
cognitif.
La conscience mentaux, cognitif, c'est exactement le mot qui convient, qui permettent de faire ça. Eh bien, quand on pose aujourd'hui la question de l'évolution des écritures, d'abord, on a tout intérêt à ne pas la poser uniquement pour des écritures très, très anciennes, mettons comme le grec, le latin ou l'hébreu, mais aussi à des écritures qui ont été créées artificiellement au Moyen-Âge, comme c'est au fond le cas pour l'écriture russe, mais aussi le cas pour l'écriture, je ne sais pas, arménienne, géorgienne, copte, etc. Il a fallu donc créer une nouvelle collection. Et cette collection ne pouvait être que multinationale, hein, parce qu'il fallait montrer comment, dans quelles conditions politiques, dans quels usages publics et privés, l'écriture s'est répandue à travers toute l'Europe. Et c'est pour cela que nous avons eu l'idée, à l'époque, Vézin, Atzma et moi, de nous intéresser aussi à l'écriture cyrillique et de demander, il y a bien des années, mais ce n'était pas facile à réaliser, donc à M. Gonod d'entrer dans les études dont il nous donne aujourd'hui les premiers résultats et déjà très intéressants.
Alors, nous allons y venir à cette écriture cyrillique, mais peut-être une question rapide au préalable à vous, Jean-Pierre Mahé. Pourquoi avoir choisi ce mot de monument ?
Monument parce que j'ai traduit du latin. On dit monumenta, paleographica, medi et vis, c'est un mot traditionnel, parce que monument, au sens étymologique du terme, veut dire un mémorial, en quelque sorte. Quelque chose qui avertit, qui rappelle. Hein, ça vient de monere, admonition, etc. Et ça ne veut rien dire d'architectural spécifiquement.
Eh bien, un grand merci. Pierre Gonod, nous arrivons donc au cœur de notre sujet avec ce projet de créer un album, pourrait-on dire, avec les plus anciens textes russes. Et nous pourrions commencer par définir ce terme de russe. Qu'est-ce qu'il recouvre ? Exactement.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, la Russie actuelle est concernée tout à fait dans la mesure où les 27 documents que nous publions concernent en fait les relations entre des villes qui sont actuellement en Russie, donc comme Smolensk, comme Pskov, comme Novgorod, mais qui évidemment, à l'époque qui est envisagée, donc 12e, 13e, 14e siècle, ne faisait pas partie d'un État centralisé, mais d'une nébuleuse, on va dire, qui était née à Kiev, donc dans l'Ukraine actuelle. C'est ce qu'on appelle le système de la Rus de Kiev, qui s'est développé donc à partir du 10e siècle, qui est arrivé à maturité juste vers le début du XIIIe siècle et a été bouleversé par l'invasion mongole, donc en 1238-40, et s'est recomposé après, mais lentement, et il en est sorti finalement la Moscovie, la principauté puis grande principauté de Moscou, qui émerge à partir des années 1300. Donc vous voyez ça, nous ne traitons pas en fait des chartes moscovites. Alors dans le cadre d'un projet plus large, évidemment, on peut s'y intéresser. Et à cet égard, je vais rappeler peut-être très rapidement comment, au début, au moment où ces collections se constituaient, où on réfléchissait, en fait, il y a eu deux précurseurs, puisque moi, je ne suis que l'héritier. Donc Vladimir Vodov, qui a été mon maître et mon directeur de thèse, qui est décédé malheureusement en 2009, et qui donc a été vraiment l'un des grands spécialistes, il était chartiste, de la diplomatique russe en France. Et il avait beaucoup travaillé avec son ami et collègue russe, Semyon Kashtanov, qui, lui, est toujours vivant. Donc, on avait ces deux collègues qui ont essayé, encore à l'époque soviétique, où c'était très difficile, de mettre au point ce projet. Mais il y avait aussi une chose qui était claire, c'est que les plus anciens documents étaient à Riga. Riga en URSS jusqu'en 1990, et puis depuis, maintenant, dans une république qui est autonome, qui a retrouvé, on pourrait dire d'ailleurs, son autonomie, et qui est en Europe. Donc, la Lettonie, c'est avec elle qu'on a travaillé, et je vais citer les deux noms de mes collègues, donc Alexandre Ivanov, ou Alexandrs Ivanovs, à la Lettonne, et Anatoly Kuznetsov, qui ont été les deux partenaires avec qui j'ai travaillé sur tout ce projet.
Alors, ce corpus est dispersé dans différents lieux, mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'en raison d'une tradition assez centralisatrice dans ces territoires, finalement, c'est...
C'est-à-dire que au départ, on avait des centres qui étaient autonomes, comme Smolensk, qui était une principauté, Pskov et Novgorod, des villes libres avec différents statuts à différentes époques, et qui envoyaient des documents, qui émettaient des documents et qui les envoyaient en particulier en direction des villes hanséatiques. D'abord, avant même que la Hanse ne soit formée, il y avait le Gotland qui était un des destinataires, et puis cette ville de Riga qui est fondée en 1200 et qui va devenir un des points de relais entre le monde russe et la Baltique en général. Donc là, on pourra dire effectivement que si on veut étudier l'histoire du commerce baltique et des institutions et des relations baltiques, on ne peut pas ignorer ce pan russe. Et donc, les documents arrivent à Riga. Or, il se trouve, et ça c'est une chance unique, c'est que ces archives de la municipalité de Riga, elles existent toujours et elles n'ont pratiquement pas bougé. Alors, Riga a connu divers statuts, puisqu'elle a été annexée par les Russes sous Pierre le Grand, et jusqu'à la Révolution russe une première fois, puis a connu 20 ans d'indépendance, à nouveau l'Union soviétique, mais ces archives n'ont pas bougé. Et ça, c'est très séduisant aussi pour nous de voir un corpus d'archives stable. Au contraire, les archives de Novgorod, de Pskov, de Smolensk ont soit été détruites, soit petit à petit, au fur et à mesure que ces centres ont perdu leur autonomie, ont été centralisés à Moscou, puis éventuellement à Saint-Pétersbourg. Et donc là, on a le fait qu'on a pour les 76 documents les plus anciens, qu'on avait identifiés dans un premier temps, plusieurs lieux, mais on va dire une dizaine maximum de conservation, et un lieu privilégié, Riga, puisque c'est là qu'il y a les 27 chartes les plus anciennes. Donc c'était effectivement, pour un premier fascicule, avec aussi toutes les normes de publication et la façon d'analyser les documents, on avait déjà largement de quoi travailler.
De quand datent-elles ces chartes les plus anciennes? Il me semble qu'il y a eu des débats et peut-être que certains textes ont été écartés alors, de la sélection.
Oui, ce qu'on a décidé, c'est qu'on prend les documents originaux ou les copies contemporaines. Le document le plus ancien est un statut un peu particulier puisqu'il date de 1191-1192, mais c'est un document qui figure dans un vidimus, c'est-à-dire une pièce où on reproduit un document plus ancien. On n'a pas l'original de ce document, mais par contre, on l'a sur ce document de 1262 qui comporte entre autres comme émetteur Alexandre Nevsky, donc un personnage illustre. Et évidemment, donc on a publié d'abord en quelque sorte le document authentique que l'on a toujours, scellé, et également la pièce reproduite sur ce document. Donc on commence en 1191, on finit en 1341, dans la logique interne du fonds de Riga. Alors ça, on pourra détailler un petit peu comment il est organisé, parce qu'on voit bien que ce fonds, qui se poursuit largement jusqu'au XVIIe, il y a une césure vers 1340. Et puis après, un nouveau flot de documents, si j'ose dire, qui redémarre à partir des années 1390. Donc là, on avait un échantillon très précis et très facile à identifier.
Alors, comment s'organise ce corpus? À quel registre appartiennent les textes et peut-être dans quelles proportions, quelles activités sont les plus représentées?
Alors, avant tout, ce sont des traités ici entre donc des cités ou des principautés russes et Riga, le Gotland, puis un certain nombre de villes qui vont constituer le réseau de la Hanse, avec pour tête de pont Lübeck. On a des documents de Smolensk, de Novgorod, de Pskov, et quelques documents de Riga qui sont rédigés en russe et en cyrillique, qui ont été préparés sur place, ce qui montre que la chancellerie locale avait des spécialistes, des gens capables d'écrire, dont un russe assez bon. Bon, on peut toujours s'intéresser aux fautes, hein, ça c'est toujours fécond, et qui n'ont pas été visiblement envoyés. Peut-être que d'autres documents ont été envoyés du même type, ce sont des réclamations. Alors c'est toujours très intéressant aussi les réclamations, parce qu'on voit que les traités qui ont été signés, qui prévoient une série de garanties assez précises sont parfois évidemment violées et que dans ces cas-là, on proteste, on réclame redressement, réparation. Donc les 27 documents couvrent la négociation des premiers accords qui est assez précise. Alors pour les traités de Smolensk, on a d'abord une charte préalable des années 1218-19 où on voit bien ce que les Russes demandent et qui n'est pas validée, qui n'est pas définitive.
Par exemple ?
Eh bien, la première chose, c'est qu'on ait le libre passage dans les deux sens. Ça, c'est la chose élémentaire et c'est ce qu'on appelle un peu la paix des marchands. Même si la paix des princes ne fonctionne pas toujours, la paix des marchands doit fonctionner. Donc, c'est la première chose. Ensuite, toutes les clauses en cas de meurtre, malheureusement, évidemment, blessures diverses avec des tarifs et des amendes appropriées et litiges commerciaux. Et donc, l'idée là aussi, c'est qu'on essaie, il y a une solidarité collective des groupes de marchands de chaque côté. Et d'autre part, on essaie de ne pas entraver encore le commerce. Donc, on dit bien, s'il y a un litige, on donne pour des crédits, enfin, il n'y a pas de système de crédit, mais pour quelqu'un qui doit quelque chose, on donne un délai et on ne saisit pas les marchandises. Alors qu'évidemment, c'est la première chose qu'on fait quand on n'est pas couvert par un système comme ça, on confisque. Et effectivement, l'idée, c'est que le commerce reste fluide. Alors, on voit bien, on a une contre-expertise avec les chroniques, en particulier chroniques de Novgorod. Et on voit bien que de temps en temps, on suspend les relations. Mais tant que Novgorod est indépendante, par exemple, ces suspensions peuvent durer 6 mois, 1 an, pas beaucoup plus. Parce que, évidemment, ça fait un manque à gagner. Tandis qu'on sait très bien que plus tard, quand Moscou va annexer Novgorod en 1478, là, le grand prince de Moscou est capable tout à fait d'instaurer un embargo complet, et ça a pu durer, là, le maximum, c'était 20 ans, entre 1494 et 1514, pour faire pression, précisément, sur la Hanse. Mais évidemment, au détriment des intérêts des marchands.
Donc ce que vous dites, c'est que pendant toutes ces périodes traitées par ces textes, c'est vraiment les intérêts économiques qui prévalent ?
Oui, en tout cas, c'est ce qui est gardé dans ces archives. On a parfois des aperçus sur des intérêts privés. On a un document, d'ailleurs, un petit peu bizarre, puisqu'il semble que ce soit un accord, soit peut-être de fiançailles avec un bijou qui attesterait de cet accord, soit pour l'achat, effectivement, d'un bijou avec une garantie très forte, très élevée, donc qui ne concerne pas vraiment les relations entre les communautés de marchands et qui est finalement arrivé de Pskov à Riga, qui a été conservé là aussi. Alors, on pourra peut-être aussi en parler. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi que les archivistes locaux, très tôt, ont commencé à ranger ces documents et à faire au dos du document une analyse pour qu'on sache de quoi ça parle, parce qu'évidemment, il n'y a pas toujours le traducteur russe sous la main, et que donc, il y a eu après des inventaires au XVIe, XVIIe siècle, ça a été conservé très soigneusement et qu'on considère que ça vaut toujours loi. Ça a toujours force de loi, même si ce sont des documents du XIIe, XIIIe siècle.
Cela explique pourquoi ils ont été conservés avec autant de soin.
C'est ça. Et qu'effectivement, la Hanse ne s'est défaite que très tardivement et elle gardait, au fond, très précieusement ses pièces, même à une époque où ce n'était plus du tout des États en face indépendants. C'était la Moscovie avec laquelle il fallait aussi finalement traiter. Mais cela dit, on a, ça c'est pas les mêmes documents, les premiers accords entre Novgorod et la Suède et la Norvège. Et c'est les premiers traités de frontières internationaux qui préludent aux frontières entre la Russie et la Norvège et la Suède.
Et quels étaient les types de marchandises échangées ?
Alors, la marchandise par excellence, globale et à un fort rapport, c'est la fourrure, enfin les fourrures. Donc ça, il y a un commerce des fourrures qui ne passe pas uniquement par la Baltique, mais c'est quand même une des voies privilégiées. Et Novgorod est vraiment le comptoir de la Hanse qui centralise ce commerce des fourrures, qui va après très loin jusque dans l'Oural, puisque les meilleures fourrures viennent de l'Oural, de Sibérie. Et donc, c'était évidemment l'État novgorodien, jusqu'à son annexion, possédait, outre ses territoires proches de la Baltique, un arrière-pays très très étendu où il y avait donc ces ressources. En fait, c'était les indigènes locaux qui chassaient, apportaient les peaux et les Novgorodiens qui les vendaient. Alors sur place, en fait, à des marchands allemands ou baltes qui avaient un comptoir qui était en fait une sorte de consulat dans lequel ils vivaient en vase clos avec leurs propres règlements et commerçaient. Donc c'était 6 mois par an. Il y avait deux vagues, les voyageurs d'hiver, voyageurs d'été. C'est comme ça que ça fonctionnait. Alors là aussi, le fait qu'il existait ce consulat ou cet hôtel, comme on disait, avec à chaque fois, il y en avait deux, hôtel des Goths du Gotland, hôtel des Allemands, à chaque fois une église catholique, en fait, un rite latin, c'est très intéressant aussi. C'est vraiment cette cohabitation fermée, mais fonctionnelle.
Et quels sont les autres types de textes qui se trouvent dans le corpus? Est-ce qu'il y en a, par exemple, des textes religieux ne sont peut-être pas si nombreux que,
non, là,
que nous pourrions le croire?
Dans ce corpus, non. Mais par contre, on a des jugements dans des cas de litige. Donc, et on voit bien que les jugements sont rendus conformément aux normes qui ont été définies préalablement. Alors évidemment, qu'est-ce qui peut arriver? Il y a aussi en particulier les poids et mesures. Quand on a une contestation sur... Alors on avait cette question qui a été longuement débattue d'ailleurs, sur la cloche, kolokol. Alors est-ce qu'il fallait le prendre au sens que c'était une vraie cloche sur laquelle il y avait un litige, ou en fait un poids en forme de cloche, et c'est maintenant le consensus est là-dessus, qui donc, dont la valeur s'était altérée. Et normalement, il y a évidemment un autre échantillon dans l'autre partie et où il fallait effectivement trancher qui avait raison, qui avait tort. Et on voit que les princes russes ou les autorités de Novgorod et Pskov sont assez prudentes. Elles sont prêtes à adopter les étalons allemands parce qu'elles veulent que ce commerce fonctionne. Là-dessus, on est conciliant.
Alors, à côté de ces texte, on peut trouver d'autres types marchands dans d'autres villes en Europe, mais il y a des supports très originaux à Novgorod pour des textes plus quotidiens. Ce sont les écorces de bouleau qui ont été retrouvées lors des fouilles archéologiques menées à partir de l'année 1957. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce corpus original?
Oui, tout à fait. Alors, je précise donc pour les chartes là que nous avons publiées, elles sont essentiellement sur parchemin. Parchemin qui est souvent bien apprêté, bien travaillé. Et d'autre part, on voit apparaître le premier document sur papier en vieux russe. En fait, c'est le plus ancien document, donc russe, on va dire, sur papier. Et là, qui n'est pas un papier russe, évidemment, puisque ça a été importé. La fabrication du papier en Russie est au plus tôt au XVIe siècle. Alors, pour ce qui est des écorces de bouleau, donc là, c'est donc l'archéologie qui nous les a révélées. On avait peu d'indices avant sur l'existence, quelques très fugitives mentions, en particulier dans une vie de saint où on nous disait que l'abbaye était tellement pauvre qu'on devait donc utiliser des écorces de bouleau en guise de support pour l'écrit. Et là, on en retrouve à partir de 1953, donc les premières fouilles régulières, et depuis, on continue tous les étés à Novgorod. Donc, on a découvert dans le sol, il y a énormément de choses à Novgorod, mais des petits cylindres qui ressembleraient à un mégot de cigare, si vous voulez. Mais en fait, vous les dépliez très soigneusement et vous apercevez donc que c'est du bois, du bouleau, enfin de l'écorce que vous avez enlevé sur le tronc et sur lesquels on grave avec un stylet. Donc, ce n'est pas de l'encre, c'est une gravure. Et donc, la deuxième révélation, donc on ne connaissait pas vraiment l'existence, c'est d'abord que ce support est très utilisé dès l'an 1000. Et là, c'est des petits billets, très courts, et effectivement, pour des questions pratiques. Alors, on pourrait dire que les trois quarts, c'est des questions d'argent. Envoie-moi telle marchandise, tu me dois tant, on a collecté le tribut à tel endroit et il reste encore à prélever, etc. Ensuite, on a des documents familiaux, et ça a beaucoup intéressé aussi, et on voit que des femmes écrivent. Donc,
sont éduquées.
Oui, peuvent écrire, y compris certaines qui se plaignent de mauvais traitements, donc à leurs frères de la part du mari. Donc, c'est assez aussi intéressant. On a quelques messages d'amour à la mode locale, hein, et parfois difficile à interpréter aussi, parce que c'est très, très court. Alors, souvent, je compare de manière un peu iconoclaste à des post-it. Vous mettez sur votre frigo, pensez à acheter de l'eau. Et bon, vous, vous comprenez ce que ça veut dire. Mais, ou alors, pense à téléphoner à un tel. Et si on retrouve ça plus de 1000 ans plus tard, qu'est-ce qu'on va comprendre de ce message ? Alors, le troisième intérêt, c'est la langue. C'est-à-dire que ce n'est ni du slavon la langue d'église, qui sert pour les manuscrits religieux, ni le vieux russe tel qu'on le connaît dans les chroniques, dans les chartes, où il est quand même assez formalisé, et on a des grammaires et tout ça maintenant, donc on le connaît bien. Là, c'est le dialecte novgorodien, donc c'est presque la langue orale. Il y a des particularités assez faciles à identifier, et parfois d'autres plus difficiles. Donc on a maintenant fait, en particulier notre collègue Zalizna, qui malheureusement lui aussi est mort récemment, on a toute une génération qui s'est éteinte. Hein. Il y avait aussi Valentin Yanine, qui était un des grands auteurs des fouilles, et qui est décédé en 2020. Donc Zaliznyak a fait la grammaire de cette langue, de ce dialecte de Novgorod, et effectivement, c'est une découverte, là aussi.
Alors Jean-Pierre Maillet, tout à l'heure, vous avez attiré justement notre attention sur la diversité des supports de l'écriture. Qu'est-ce que vous inspire ces fragments de feuilles de bouleau, d'écorce ?
C'est exactement, si vous voulez, ce qu'on a, par exemple, quand on fait du copte, ou à peu près. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des textes qui sont sur des papyries, et des papyries littéraires avec des lettres bien formées. Et puis, vous avez toutes sortes de documents qui sont sur des supports inattendus, comme par exemple des ostracas, c'est-à-dire des fragments de poterie dans lesquels on écrit justement le genre de choses familières que vient d'évoquer Pierre Gonod. C'est ça, c'est que ce qui est passionnant dans l'histoire de l'écriture, c'est d'étudier à la fois l'usage privé, si vous voulez, et l'usage public, en tout cas plus formalisé de l'écriture. Et ça, c'est évidemment très intéressant. Alors, en effet, dans ces chartes russes, il s'agit d'affaires privées d'une certaine façon, mais ça touche aux rapports internationaux et c'est pour ça que c'est formalisé. Mais formalisé jusqu'à un certain point, il y a quelque chose d'amusant dans les chartes que nous a montrées M. Gonod, c'est que les utilisateurs du parchemin sont très économes. C'est-à-dire qu'ils découpent exactement la quantité de parchemin qu'il leur faut pour leur message et ils ne s'embarrassent pas d'un format qui soit standard. Hein, ce n'est pas du tout comme si on faisait un livre d'église, on aurait des pages qui seraient bien mises en ligne avec un nombre constant à peu près de lettres par ligne. Là, je crois que c'est assez différent.
Ah oui, oui, tout à fait. Et effectivement, on voit aussi que la diplomatique, c'est-à-dire l'art de rédiger les écrits et les formules, tout ça, se met en place littéralement. Parce qu'en fait, si on élargit les plus anciens traités de la Russie, c'est avec Byzance, avec Constantinople, mais on ne les a plus. On a simplement leur transcription dans les chroniques, c'est-à-dire dans la plus vieille chronique russe, le récit des temps passés. Et là, c'était dans les années 900. Et là, on fait un saut vers 1190 ou 1130 pour certains actes privés, mais dont on n'a que des copies, là aussi. Et on voit bien que les premiers traités avec Riga, avec Lahance, eh bien, on les date en année du Christ. Alors qu'on compte dans les chroniques russes en année du monde, selon le système byzantin. Donc, on est en train, petit à petit, en tentant de mettre au point son propre usage diplomatique. Et par la suite, les chartes plus fréquentes, plus nombreuses, seront datées à nouveau en année de la création du monde, et surtout les chartes internes au monde russe. Et pareil, on a un petit préambule dans l'une des premières chartes qui peut se traduire très facilement en latin. Et par la suite, les préambules ne seront plus du même style. Donc, on a ces tâtonnements. On a aussi une des chartes des années 1270 où il est fait allusion aux ordres du Khan mongol, puisque désormais la Horde d'Or surveille ce qui se passe et veut que le commerce continue. On a parfois dit à tort que l'invasion mongole avait coupé la Russie de l'Europe. C'est faux, c'est tout à fait faux. Novgorod continue de travailler. Et donc, il y a cette allusion à un ordre express du Khan. Alors, on n'a plus ça aussi, ce document, mais on a cette interface qui se fait. Et le point aussi que je voulais souligner, c'est évidemment les sceaux. On a un corpus de sceaux qui existe encore sur ces documents, qui sont les débuts de la sigillographie dans ce monde russe, aussi bien de Novgorod, avec l'apparition aussi du sceau de tout Novgorod en tant que cité, l'évêque, l'autorité ecclésiastique, et puis un certain nombre de princes qui ont leur sceau. Alors parfois, ce n'est pas le sceau du prince qui est l'auteur de l'acte qui scelle, parce qu'on a recellé le document a posteriori. Donc tout ça mérite évidemment d'être analysé en profondeur, et c'est tout à fait aussi un apport qu'on a donné avec des reproductions des sceaux.
Alors nous avons beaucoup parlé des relations avec le monde balte et le monde scandinave. Là, vous évoquez les relations avec ce qu'on pourrait appeler le monde byzantin. Comment évoluent-elles et quelle est leur importance ?
Alors, les relations avec le monde byzantin, elles sont un peu, on pourrait dire maintenant, c'est un mot à la mode, asymétriques. C'est-à-dire que d'un côté, du point de vue religieux, elles sont très fortes. Donc, le prince de Kiev, Vladimir, s'est fait baptiser dans le rite byzantin, donc en 988, et a converti ses états, et donc tous les états héritiers, aussi bien ses enfants que les territoires, sont orthodoxes, enfin de rite grec, mais avec l'alphabet cyrillique. Donc on a aussi cette singularité, c'est que ce monde slave orthodoxe utilise soit la glagolitique, alors un autre alphabet, mais peut utiliser dans le
alors,
monde...
Alors il va falloir nous expliquer, oui, la glagolitique, de quoi s'agit-il ?
Alors oui, une petite précision. Donc effectivement, comment commence l'évangélisation des slaves ? C'est les saints Cyril et Méthode, qui sont toujours appelés les apôtres des slaves, qui vont aller d'abord en 863 dans un territoire qui s'appelle la Moravie, qui est à peu près situé à cheval sur la République tchèque et la Slovaquie actuelle, un peu la Hongrie. Donc pour évangéliser des Slaves, mais des Slaves assez loin de Constantinople, et donc parlant pas le grec. Et ils se décident à traduire donc la liturgie, les textes essentiels, en slave, mais qui n'est pas le slave parlé. Donc c'est une langue, là aussi, qui a été aménagée exprès, où il y a beaucoup de syntaxe grecque, beaucoup de mots qu'il faut soit laisser en l'état, soit adapter. Et donc c'est cette langue qu'on appelle le vieux slave, qui va ensuite évoluer dans les autres pays slaves orthodoxes en slavon au pluriel, donc slavon serbe, slavon bulgare, slavon russe, slavon ruthène pour les Ukrainiens, Biélorusses. Comment on l'écrit, cette langue ? Au début, Cyril et Méthode ont l'idée de faire un alphabet spécifique. Donc c'est l'idée d'inventer des alphabets qui s'appellent glagolitiques. Et cet alphabet emprunte essentiellement à l'hébreu, mais se veut un alphabet uniquement pour ces langues. Alors il est utilisé, il va être utilisé même assez longtemps en Croatie, qui est pourtant un pays de rite latin, mais où on l'a gardé de façon un petit peu identitaire, comme une marque. Et puis il se trouve que les disciples de Cyril et Méthode, donc on est là vers 885, vont migrer vers la Bulgarie, un état qui s'est converti aussi et qui est beaucoup plus proche en fait de Constantinople. Et là, sous l'influence un peu de cette proximité, ils vont adopter un autre alphabet, en fait, qui est ce qu'on appelle le cyrillique, proprement dit, en hommage à Saint Cyril, mais qui était déjà mort. Et ce cyrillique, c'est l'alphabet grec augmenté, donc avec des lettres supplémentaires. Et c'est celui qu'on connaît donc dans le russe, l'ukrainien, le biélorusse, mais aussi en serbe, en bulgare. Par ailleurs, à l'époque soviétique, on l'a utilisé pour toutes les langues de l'URSS qui n'avaient pas d'alphabet, où on a fait du cyrillique avec, là aussi, des variations. Donc, il y a une ère de cet alphabet cyrillique qui, évidemment, jusqu'à nos jours, est très étendue.
Et ce qui est très intéressant, c'est Jean-Pierre les Maille. Nouveaux alphabets, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, au fond, il y a une scène biblique qui est très importante, qui est la scène où Moïse reçoit la loi inscrite sur des tables du doigt même de Dieu. Eh bien, on a représenté la christianisation des États périphériques à Byzance, au fond, comme une nouvelle donation de la loi, c'est-à-dire les saints évangélisateurs, Cyril, Méthode, mais d'autres saints dans différentes régions du monde, ont été présentés comme des nouveaux Moïse. Et ils ont créé un alphabet spécialement donné par Dieu pour ces peuples-là. Donc il y a une sorte de mystique, si vous voulez, de l'alphabet et de culte de la singularité de l'alphabet, parce que c'est un don que Dieu a fait personnellement. Hein, on a l'impression quelquefois que l'alphabet est reçu par ces peuples chrétiens qui inaugurent un alphabet pour la traduction de la Bible comme quelque chose de singulier, un don personnel de la divinité.
C'est l'alphabet du coup utilisé pour les textes que vous nous présentez, mais peut-être pas uniquement.
Oui, alors évidemment, donc, comme on parlait des relations avec Byzance, il y a cette église de la Rousse qui est apparue à la fin du Xe siècle et qui va rester suffragante de Constantinople. Donc on a un métropolite qui était à Kiev, qui après s'est déplacé à Vladimir sur la Klyazma, puis à Moscou. Là, à Moscou, on est déjà en 1328. Et ce métropolite dépend du patriarche de Constantinople. Et pendant plusieurs siècles, ça restera une tutelle tout à fait constante et acceptée, par ailleurs. Alors, la rupture viendra au milieu du XVe siècle, quand l'Empire byzantin accepte momentanément l'union avec Rome, et ça, les Russes ne veulent pas en entendre parler. Donc, de fait, ils rompent, donc ils entrent en autocéphalie, comme on dit, et... Ce n'est encore un siècle plus tard qu'il y aura un patriarche de l'Église russe, reconnu d'ailleurs par le patriarcat de Constantinople en 1589. Donc ça nous montre qu'il y a quand même une continuité, que donc cette Église russe aura évidemment des textes qui étaient déjà traduits en grande partie à l'époque de Cyrille et Méthode en slavon, une langue assez stable, assez archaïque en fait. Le slavon évoluera encore, mais disons de façon contrôlée. Et parallèlement, donc, les textes en vieux russe qui, eux, sont pour la pratique quotidienne, pour les chroniques, pour les traités, etc. Donc déjà, on a deux sphères. La différence avec l'Occident, c'est que par rapport à la diglossie entre latin et langue vernaculaire, il y a moins de distance. Alors, pour ce qui est donc des relations avec Constantinople, il y a une forte, forte relation religieuse. Au niveau politique, elle est moindre, c'est-à-dire que l'empereur byzantin est théoriquement, effectivement, le chef du monde chrétien orthodoxe, mais il ne dirige pas la Russie de Kiev ni la Moscovie. Et au contraire, quand l'Empire byzantin s'effondre, eh bien, effectivement, c'est petit à petit le grand prince de Moscou puis le tsar de Russie qui va avoir des velléités de prendre le relais, d'être l'empereur chrétien dans ce monde orthodoxe.
Et ça, on le voit dans les textes, de quelle manière?
Alors, disons que déjà au début du XVIe siècle, on a dans la tradition moscovite quelques textes qui tendent à suggérer la translatio imperii, comme on dit, la transmission ou le transfert de l'empire, du pouvoir impérial, vers Moscou. Alors, il y a en particulier cette légende sur la chapka ou le bonnet de Monomaque. Donc, Vladimir Monomaque est un des princes de Kiev qui règne entre 1113 et 1125 à Kiev, et qui est apparenté, sans qu'on sache exactement par les femmes, mais sans qu'on sache exactement très bien par qui, à Constantin IX Monomaque. Et donc la légende qui est formulée à Moscou, hein, donc beaucoup plus tard, c'est que l'empereur Constantin IX lui aurait envoyé sa couronne, qu'il se serait déjà couronné empereur à Kiev, ce qui est absolument légendaire, et que donc le couronnement d'Ivan le Terrible en 1547, quand il se fait couronner tsar, donc empereur, ne serait qu'une restauration de ce couronnement qui avait déjà eu lieu à Kiev. Et d'ailleurs, sur le trône d'Ivan le Terrible dans la cathédrale de Moscou, on a cette scène du couronnement de Vladimir Monomaque, donc pour montrer une parfaite continuité entre Constantinople et Moscou.
Alors, en considérant tous ces textes par rapport à l'Europe occidentale, on peut se demander si la culture de l'écrit était la même. Peut-être que les textes sont moins nombreux, moins présents. Comment l'expliquer pour commencer, Monsieur Maï?
Ben, il est certain que ce sont des États, je veux dire, je parle de l'Est de l'Europe, mais aussi de certains États périphériques en Orient, qui sont restés des siècles sans écriture. C'est-à-dire il y a un très grand contraste. Pensez par exemple que, au fond, sur les pays baltes, on n'a pas de sources écrites, on n'a pas d'histoire avant le XIIIe siècle. Donc, en réalité, ces marchands de la Hanse, ce sont des Allemands. Vous voyez par exemple Riga, là où se trouvent nos manuscrits, c'est une colonie de Brême et de Hambourg. Donc, elle a un blason coupé en deux qui représente ces deux choses-là. Et donc, il y a tout ce qui est important dans la vie reste pendant des siècles oral. Et petit à petit, l'écrit conquièrent du terrain. Mais je dirais qu'au contact de l'Europe, ça va très vite. Hein, tandis qu'au contraire, si on était en Asie mineure, ça irait plus lentement.
Pierre Gonod, sur ce sujet.
Oui, alors il y a un collègue britannique, Simon Franklin, qui a écrit tout un livre sur les usages de l'écrit dans les époques anciennes dans la Russie et au début de la Moscovie. Et effectivement, on voit très bien que d'abord, le paysage est divers. C'est-à-dire que des signes écrits, on en a, mais ils sont reçus. Donc on a des monnaies arabes, des dirhams, et puis on va parfois graver dessus quelque chose, un signe. Ou qui n'est pas forcément en cyrillique, qui peut être en alphabet autre. Il y a des runes, ça existe aussi. Il y a un certain nombre d'objets manufacturés qui portent des inscriptions comme les armes, mais c'est souvent les épées franques, avec la signature vraiment du fabricant, comme on aurait maintenant sur les chaussures. Et puis, on a l'apparition d'une écriture qu'on s'est appropriée dans son propre espace, qui commence donc à partir du Xe siècle, du baptême. Donc on a des livres religieux qui ont une sphère d'utilisation très précise. Et en dehors de ça, eh bien on va voir qu'il y a des pratiques précises qui requièrent de coucher par écrit. Donc effectivement, pour des comptes, pour des transactions, on commence à avoir ces documents très peu formels. Alors pour les traités, c'est très intéressant de voir qu'on a la coexistence entre des formes d'accords orales, qui sont longtemps pratiquées, y compris à Novgorod, par exemple, entre le prince et la ville et la cité, qui l'invite et qui le congédie. Et puis, bon, finalement, le premier traité vraiment dûment signé, écrit, scellé, c'est 1264. C'est quand même assez tard. Mais on est passé de l'un à l'autre. Et il y avait cette pratique de l'accord oral, du serment, de la déclaration publique. Et alors, ce sur lequel on est là aussi dans des débats, c'est la transmission des messages. Évidemment, il y a des messagers qui transmettent oralement un certain nombre de choses. Mais quand il s'agit d'exigences, de clauses plus ou moins complexes, est-ce qu'il y a déjà quelques éléments? Alors là-dessus, on peut dire qu'on a peut-être perdu un certain nombre de documents, c'est toujours un argument recevable, mais il ne faut pas non plus être trop esclave de certaines représentations, en particulier dans des chroniques tardives. On nous montre très souvent le messager avec un bout de papier à la main, ou en fait de parchemin, mais c'est un symbole. C'est le symbole graphique de la transmission d'une information, mais il peut très bien l'avoir transmise oralement. Donc on a une interférence entre les deux, qui persiste, et effectivement, c'est petit à petit, les archives qu'on a les plus solides, c'est 14e siècle. Là, ça commence, et on commence à avoir des séries dont on voit bien qu'elles sont parfois interrompues par des incendies, par des désastres qui ont coupé dans les fonds, mais que les papiers, les documents existaient.
Alors, dans ce patrimoine écrit, quelle est la place des récits liés aux origines? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus liés à des traditions orales? Et à partir de quel moment émergent-ils? Là, nous sommes sur des sujets qui, aujourd'hui encore, peuvent être très sensibles.
Oui, alors là, on est assez bien documenté, pour autant qu'on le sache.
Enfin, les origines ou les commencements? C'est ça le problème.
Alors, ce qu'on va dire, oui, pour être clair. 1110, 1125, c'est un moment très important pour la Russe de Kiev, la Pologne, la Tchéquie ou la Bohême. Dans ces trois pays où il y a des monarchies qui émergent, en Pologne et en Tchéquie, ce seront des rois, dans la Russie, ce sont des grands princes ou des princes, on a la première chronique racontant d'où nous venons. Donc, dans la Russie, ça s'appelle « Récit des temps passés » et ça commence d'où vient le pays russe. Qui en premier a régné à Kiev et comment le pays russe a commencé. Donc, c'est vraiment la quête des origines. Et pareil, donc on a en Pologne Gallus Anonymus, comme on l'appelle, le Gaulois anonyme, parce qu'il vient de chez nous, en fait, il est venu écrire là-bas, et en Bohême, donc Cosmas de Prague. Donc ces trois pays éprouvent au même moment le besoin de raconter, de se raconter. Alors il y avait certainement des sources orales, et on peut retracer par moments des légendes indo-européennes et des légendes pour la Russie scandinave. Des sagas, il y a des recoupements précis qu'on peut donner des exemples. Mais on voit bien que le travail s'achève, plus exactement, en 1110, 1117. Alors, évidemment, les spécialistes russes ont cherché une chronique primitive, un récit plus ancien. Et là-dessus, il y a des débats encore très ouverts. Alors, 1047, 1090, probablement qu'il y a eu des étapes préalables. Alors, on n'a aucun manuscrit de ces époques. Le manuscrit de chronique russe le plus ancien date de 1375, et c'est ce récit des temps passés continué. Alors, ce qu'il y a après, c'est que ça continue. Il y a des continuations diverses dans diverses régions. Et on voit les chroniques de Novgorod, elles prennent leur essor un peu plus tard et ont leur spécificité.
Jean-Pierre Mahé, sur ce sujet ?
Bien, écoutez, moi, je viens d'un horizon où tout est un peu décalé dans le passé par rapport à ce que vient de dire Monsieur Gonod. Le point le plus important, c'est que théoriquement, quand on est devenu chrétien, on sait tout sur les origines, l'histoire et la fin des temps, n'est-ce pas ? Donc, les vraies chroniques d'origine, elles sont pré-chrétiennes et elles restent interdites pendant longtemps. Parce que l'écriture a été créée pour traduire la Bible et la Bible raconte tout cela. Alors, la question est de savoir à partir de quel moment est-ce qu'on a le droit d'évoquer des récits d'origine, donc de la mythologie, qui n'est pas proprement biblique. Alors, en fait, on est obligé de supposer que pendant, je ne sais pas, en Arménie, la christianisation est au IVe siècle, et pendant 400 ans, les gens vont lire la Bible et garder en tête des mythes païens qui sont complètement non bibliques. Et c'est seulement à partir du VIIIe siècle qu'on va avoir l'idée de placer ces mythes païens sous le patronage, je veux dire, de je ne sais quel patriarche, et de raconter les vues païennes sur l'origine du monde, mais toujours en les christianisant et en supprimant beaucoup de circonstances qui paraissent fabuleuses ou scandaleuses et qu'on ne peut vraiment pas dire dans un État chrétien.
Oui. Cela signifie que sur les territoires qui nous intéressent, en écriture cyrillique, ce genre de récit apparaît plus tard.
C'est-à-dire que là, pour le récit des temps passés, qui est vraiment le récit primitif, on commence au partage des terres entre les fils de Noé. Donc c'est assez intéressant. On nous dit, voilà, nous descendons de Japhet, et c'est des terres du Nord. D'ailleurs, on se voit comme pays du Nord, pas comme pays de l'Est. Et à partir de là, on va enchaîner sur un panorama intéressant, d'ailleurs, sur la migration des Slaves. Alors évidemment, ces Slaves forment un tout. On a cette idée d'une unité des Slaves, et que petit à petit se dispersent. Et donc, on va voir arriver des Slaves qui sont des nouveaux venus, ce qui correspond en réalité, en Europe orientale, aussi bien vers le nord, vers la future Novgorod, que vers Kiev. Et là, on a le contact avec les Khazars, avec les Scandinaves, avec les Baltes. Donc, on a un rapide, très rapide résumé de ces migrations. Et puis après, on essaie de nous introduire la dynastie régnante. Et donc, on va faire venir donc Rurik, le héros éponyme de Scandinavie, d'au-delà de la mer, d'outre-mer. Alors même si après, on a essayé de dire non, ce n'est pas la mer, c'est le lac Ladoga simplement, et il est slave. Parce que ça, pour les Russes, au XVIIIe siècle, c'était un peu gênant que leur dynastie soit scandinave, vu qu'ils s'étaient battus contre la Suède sous Pierre le Grand. Mais on introduit la dynastie, et après, cette dynastie, c'est Vladimir qui se convertit, et là, on est parti sur une souche, une dynastie, un pays, et après, une religion. Donc, c'est les trois éléments. Alors, sur le paganisme, on a très peu de choses, et des choses qui sont qui ont l'air un petit peu déjà pré-chrétiennes, dans les faits, effectivement, avec un peuple plus pacifique, un peuple plus guerrier, et... évidemment, comment on fait la polygamie, des choses comme ça, puis après, tout ça s'arrête. Donc, les indications qu'on peut recueillir concrètes sur le paganisme, même des Slaves orientaux, je ne dirais pas des Slaves en général, sont assez décevantes.
Le XIVe siècle est une borne importante dans vos travaux ?
C'est-à-dire, c'est le début de l'histoire de la Moscovie. La Moscovie commence à se former comme un tout petit territoire, puisque le premier prince à l'origine de la dynastie locale, qui est descendant de Vladimir comme les autres, est en fait le fils cadet d'Alexandre Nevski et le dernier né, donc le parent pauvre. Mais ces héritiers vont se montrer très astucieux dans leurs relations avec les Mongols et avec l'Église orthodoxe russe, et donc petit à petit s'affirmer comme des partenaires privilégiés des Mongols, et après se débarrasser des Mongols. Mais ça se passe entre 1304 et 1480. 1480, c'est la date de la fin du joug mongol. Donc on a presque deux siècles, en fait, de montée graduelle. Et alors après, effectivement, la doctrine moscovite, c'est que nous sommes les héritiers, évidemment, de Vladimir, ce qui est tout à fait exact, et donc nous revendiquons cet héritage, la Russie de Kiev, tout entière, donc y compris l'Ukraine, la Biélorussie, d'où les querelles jusqu'à nos jours.
Alors, Jean-Pierre Mahé, pour replacer tous ces travaux dans une histoire complète de l'écriture en Europe, que vont-ils apporter et peut-être changer notre regard sur cette histoire de l'écriture ?
Écoutez, là, c'est un projet très ambitieux. Pour l'instant, nous sommes... Enfin, les directeurs de la collection sont en train de lancer un certain nombre de recherches partielles. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'avec l'écriture, il y a tout un système de codes, de pratiques qui passent, quelle que soit la langue, quelle que soit son origine. C'est-à-dire, par exemple, si vous copiez un évangile, vous aurez forcément des divisions du texte qui ont une origine très ancienne et des systèmes d'annotation marginale ou infrapaginale qui vous indiquent des variantes qui existent depuis très longtemps et en même temps, vous aurez toutes sortes de pratiques de stichométrie, c'est-à-dire de mesure des lignes ou des versets du texte, de façon que les textes ne soient pas altérés. Alors donc, chacun des types d'écrits est accompagné de pratiques qui sont absolument internationales, qui passent les frontières, qui passent les langues. Et évidemment, ce qui est vrai pour les textes religieux l'est aussi pour un certain nombre de textes commerciaux, de textes diplomatiques et peut-être même d'écrits privés. Hein, je ne sais pas, c'est un point que je poserai volontiers, est-ce qu'il y a des écrits magiques ? Par exemple, la magie, c'est un des cas où on écrit normalement de la langue populaire. Et on a des talismans, des choses comme ça, qui ont des formes souvent intéressantes. Est-ce qu'il y en a dans le monde slave ?
Alors, ce qu'on a... par l'archéologie, on a retrouvé... dans les sépultures, évidemment, des croix, donc évidemment, qui commencent à attester de la christianisation, mais on a une phase un peu de transition où entre des formes un peu abîmées du marteau de Thor et de la croix, on peut hésiter. Donc on a l'impression qu'on a encore une double... Alors il y a ce terme de double foi, de voyevierie, qui est employé dans des textes religieux où on dénonce la double foi, qui peut être aussi bien une interférence avec le christianisme de rite latin que des survivances du paganisme. On a une sorte de manuel du confesseur qui date du XIIe siècle, où il est question donc de pratiques, évidemment, pour guérir les enfants quand les enfants sont malades, éventuellement pour retrouver l'amour perdu d'un fiancé. Donc on voit que là, il y a des usages, mais qui sont plutôt oraux et avec des décoctions, des potions, des choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a de la magie chrétienne, en particulier les sorts bibliques ou des choses comme ça, et que donc là, finalement, même le christianisme génère sa propre magie. Et on peut utiliser donc les écritures pour essayer de deviner l'avenir. Là, on est dans un système chrétien, mais hétérodoxe, si on peut dire. Et effectivement, ça aussi, c'est un usage de l'écrit qui est tout à fait intéressant. Et puis, pour donner une autre anecdote, la plus récente, il arrive par moments que ces cultures de l'écrit, où l'écrit est tardif, où on est un peu en retard, sans que ça soit forcément péjoratif, permettent aussi par moments de prendre de l'avance. Et donc, Pierre le Grand, par exemple, est l'un des premiers à avoir instauré de manière assez systématique le passeport, en particulier le passeport interne, pour circuler à l'intérieur de ces États, alors que dans d'autres pays, y compris la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni plus exactement, ça n'existait pas. Il pouvait y avoir des passeports pour aller à l'étranger, mais on ne contrôlait pas de la même façon. Il y avait des registres, il y avait toutes sortes de choses. Donc, on peut avoir par moments des choses qui vont plus vite dans ces cultures, entre guillemets, retardataires de l'écrit.
Alors, c'est très intéressant. Et tout le travail que vous menez actuellement est vraiment ambitieux, ce travail d'édition. Vous êtes en cours, vous nous l'avez bien dit. Peut-être pour conclure, qu'est-ce que ces textes comme source d'études va apporter aux historiens? Quels sont les sujets qui les intéressent particulièrement dans la recherche d'aujourd'hui? Sur quel point sont-ils attendus?
Alors, il y a deux choses, je dirais. Donc là, c'était un collègue qui s'appelle Blomqvist, qui a publié en 2005, ça s'appelle en anglais « The Discovery of the Baltic », la découverte de la Baltique. Donc, il intitule ça, voilà le projet, « The Reception of a Catholic World System in the European North ». Donc, la réception d'un système global ou mondial catholique dans le nord de l'Europe. Tout en reconnaissant déjà dans son texte qu'il n'est pas que catholique, puisque justement, il y a au bout, à l'est, une fraction qui est chrétienne mais orthodoxe. Et puis, il y a au milieu ces pays baltes qui sont encore païens et qu'on va christianiser de force. Donc, c'est effectivement envisager déjà la christianisation de l'Europe dans des zones où elle se finit, où elle est en train de s'achever, et comment se fait la soudure entre les deux morceaux avant qu'on ait cette coupure qui va s'affirmer et passer par la Pologne aussi entre territoire orthodoxe, territoire de rite latin, et puis après la réforme. Hein. Donc tout ça, ça nous permet de voir aussi comment se compose cette mosaïque. Et peut-être parfois, je ne dis pas de deviner ou d'expliquer, mais on peut comprendre aussi, avoir un élément supplémentaire d'explication sur le fait que le protestantisme se soit finalement très bien implanté dans ces territoires scandinaves qui avaient reçu le christianisme latin différemment ou d'une autre, ou un peu plus tard. Bon, c'est une hypothèse, mais ce n'est pas inintéressant. Et d'autre part, effectivement, c'est l'interférence entre oral et écrit. Comment on voit, alors par exemple, dans la thèse de Robert Delors sur les fourrures, qui est vraiment toujours une thèse très importante, il montre bien que certains mots slaves et russes sont passés dans la langue courante germanique et la langue du commerce.
La frontière. Par exemple,
voilà.
Granitsa,
Grenze. Voilà. Et puis, alors, des mots concernant spécialement les fourrures, comme, alors, il y avait Kun, qui est Kuna Kunitsa, c'est la martre, c'est une peau, et qui désigne après une unité de compte monétaire qui, en fait, sert à payer. C'est l'équivalent d'une peau de martre. Et d'autre part, il donnait encore un autre exemple qui était la troinitsa, c'est-à-dire une fourrure composée de trois peaux cousues ensemble. Et donc tous ces mots deviennent des mots courants parce que ben on les a entendus. De même que la langue des marins comporte beaucoup de mots d'emprunt au peuple navigateur. Et effectivement, c'est intéressant de voir qu'à la fois, il y a des droits précis, des choses formulées, des chancelleries qui, des deux côtés, savent lire et écrire dans les deux langues, et puis des gens qui, au milieu, utilisent ces termes, les empruntent, les déforment, mais finalement les adoptent.
Jean-Pierre Mahé, je vous laisse le mot de la fin.
Écoutez, c'est vraiment un monde... une ouverture très grande que vient de faire Pierre Gonod, parce qu'il nous découvre la complexité de l'histoire. Vous voyez, ces cités avec un prince ou bien avec une république indépendante qui sont les cités des Russes. Et puis les États qui viennent s'y superposer, c'est-à-dire que la région qui nous concerne, elle fait partie d'abord de la grande principauté de Lituanie, qui, en fait, comportait trois morceaux, la Lituanie actuelle, plus la Biélorussie, plus, je veux dire, la partie ouest de l'Ukraine. Et on voit comment ces régions ont commencé à former une civilisation commune, avec évidemment le rôle déterminant des marchands de la Hanse qui ont apporté des pratiques occidentales dans ce pays. C'est vraiment une façon de voir comment, petit à petit, s'est formée une culture européenne à l'intérieur de ces régions.
Eh bien, un grand merci à tous les deux, Jean-Pierre Mahé, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et Pierre Gonod, je vais rappeler le dernier livre que vous avez publié, il s'appelle Novgorod, donc attire notre attention sur une cité en particulier, et quelle cité, puisqu'elle a été à une époque la plus peuplée de ce territoire, Histoire et archéologie d'une république russe médiévale 970-1478 chez CNRS Éditions, et bien sûr, nous suivons de près la publication des monuments de l'Académie des inscriptions et belles-lettres avec tous ces textes.
Des monuments paléographiques.
Des monuments paléographiques. Nous avons bien compris qu'il s'agit d'un symbole avec tous ces textes dont nous avons parlé. Merci beaucoup et à bientôt. Thank you.